Nous avons vu jusqu'à maintenant une petite partie, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir concernant la troisième béatitude. La troisième béatitude, je dis bien celle des affligés. Mais je pense que vous voulez revenir sur le mystère du fonctionnement de l'âme par rapport au plaisir et à la douleur, au niveau du corps et aussi à la souffrance et à la joie au niveau de l'âme. Est-ce que j'ai bien compris?
Oui, parce que justement, lors de la dernière émission, nous n'avions qu'effleuré seulement cette histoire, et c'est un mystère très important que nous sommes obligés d'approfondir, principalement au niveau de cette béatitude de ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Autrement dit, quand est-ce qu'on sera consolé? Est-ce que déjà maintenant on peut être heureux quand on souffre? Et comment cela est-il possible? Parce qu'il semble y avoir une contradiction. C'est certain que, comme quelqu'un disait, on ne peut pas réfléchir froidement quand on a les pieds dans l'eau bouillante, parce que le corps est uni à l'âme et ils ont une interférence, une interrelation réciproque.
C'est certain que c'est la question la plus urgente qui nous vient naturellement à l'esprit, la consolation qui est promise. Quand nous viendra-t-elle?
Oui,
où est-elle? Quand viendra-t-elle?
Oui, et comment est-elle possible aujourd'hui? Parce que déjà aujourd'hui, il nous faut une espérance, il nous faut une paix, il nous faut un bonheur pour vivre. Si c'est rien que dans 2 millions d'années, là, ça commence à faire. Alors, question donc cruciale, c'est le cas de le dire. Mais pour comprendre ça, et pour comprendre le Christ d'ailleurs, qui a pu être heureux sur la croix, chose curieuse à dire, et pour comprendre que comment pouvait-il être heureux quand il disait à son père, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Autrement dit, est-ce que le Christ a toujours été heureux? Est-ce que lui-même a vécu vraiment cette béatitude? Et si oui, comment cela nous est-il possible à nous aussi? Alors d'abord, j'aimerais dire démontrer quasiment un peu et montrer par une expérience facile à comprendre comment cela est possible.
D'accord.
D'abord, l'homme, on a toujours dit, l'homme est composé d'un corps et d'une âme. On dit que son âme est immortelle, le corps, lui, est mortel. Ce qu'on ne sait pas souvent, et ce qu'on dit peut-être pas souvent, c'est qu'on peut se construire un corps spirituel, c'est-à-dire une manière d'exprimer matériellement ce que vit l'âme. Mais avant de comprendre ça, il faut expliquer comment cette union entre le corps et l'âme, ça fonctionne. Alors, je dirais d'abord le principe, c'est que le corps est plus fait pour la douleur que pour le plaisir. On avait dit ça déjà, mais là, je voudrais qu'on y revienne de façon plus systématique.
Qu'est-ce que vous voulez dire, le corps est fait pour la douleur?
Je veux dire que le corps, quand on le fait jouir, il est bien content, ça a fait des cellules, tout ça, c'est bon. Mais d'un autre côté, on dirait qu'il est plus fait pour souffrir que pour jouir. La preuve, c'est que si on l'excite trop dans une jouissance, il commence à souffrir. Mm-hmm. Et que aussi un simple mal de dents peut gâter tout un repas. Autrement dit, on dirait que le corps a une attitude plus grande à souffrir des douleurs physiques qu'à jouir des plaisirs physiques.
Mais il n'est pas fait pour la douleur, donc il ne la tolère pas.
C'est-à-dire que justement, c'est que la douleur, c'est un signe qu'il y a une loi dans le corps qui est violée. Alors le corps réagit par une douleur, et peut-être les plantes en ont aussi, là, je n'en sais rien. Mais nous autres, ça fait mal pour qu'on arrête de faire ça, parce que la route n'est pas bonne. Tandis que quand c'est le plaisir, ça nous dit que la route est bonne. Alors, on est porté à dire « OK, ça marche, c'est bon. » Et évidemment, c'est la fête des cellules, tout roule dans l'huile.
Alors, on peut en déduire que le corps est effectivement fait pour une certaine forme de plaisir et de bonheur.
D'abord. Mais que quand ça va mal au niveau physique, il y a une loi qui est violée, il souffre plus, on dirait, qu'il jouit. Pourquoi? Probablement pour nous avertir que c'est dangereux. C'est dangereux que tu aies cette route-là. Mais je dis quand même tout de suite que le plaisir aussi peut être dangereux si on y prend pas garde. On dit que la sobriété a meilleur goût. Le type qui prend un petit coup pour virer un détour avec plus de confiance, il prend deux petits coups, il passe tout droit. Donc aussi, le plaisir, il faut prendre attention. C'est un signe que ça va bien, mais c'est pas un but. Et si on n'en est pas jamais satisfait, on passe tout droit et arrive des maladies qu'on connaît, l'alcoolisme et le reste. Donc, ça, c'est pour le corps. On dirait que le corps est plus fait pour jouer, pour souffrir que pour jouer, probablement pour nous avertir qu'il y a un danger, que le but du bonheur n'est pas dans le corps.
Comme si on avait un petit système d'alarme intégré.
Exact. Et que l'alarme pour la douleur est plus forte.
D'accord.
Parce que c'est dangereux. Maintenant, chose curieuse, quand il s'agit de l'âme, c'est l'inverse. On dirait que l'âme est faite plus pour la joie que pour la souffrance. Et là, j'aimerais démontrer ça. Et que le fond de l'âme, c'est la joie. Le fond de l'âme, c'est la joie. Puis même Freud, paraît-il, avait déjà dit ça, thanatos est moins puissant que le thanatos. Autrement dit, l'homme est plus fait pour la joie que pour la souffrance. Et là, on peut voir que le bonheur est possible même chez quelqu'un qui souffre d'abord physiquement et que même s'il est dans une certaine souffrance mentale ou psychologique, il peut vivre une joie quand même. C'est ça que j'aimerais qu'on demande, parce que c'est essentiel pour vivre la béatitude, qu'on développe cette joie profonde qui peut nous rendre heureux en toutes circonstances, même dans une douleur physique et même dans une souffrance morale, comme on dit, là, ou de l'âme.
Alors, j'allais vous poser la question, est-ce qu'on peut donc être heureux quand on souffre?
Oui, mais comment?
Expliquez-nous ça.
Bon, d'abord, il faut dire tout de suite que la tâche la plus spécialisée que l'Esprit-Saint a à faire avec nous, c'est nous apprendre à souffrir. Il y a une manière de souffrir qui est destructrice et il y a une manière qui est constructrice. Et ça, l'Esprit-Saint doit nous l'apprendre. Mais pour nous l'apprendre, il y a bien d'autres ouvrages à faire en bas, d'abord avec nous. C'est de nous éclairer sur des principes, ensuite de nous faire trouver un être à aimer, prendre conscience déjà qu'on a déjà été aimé, qu'on est aimé de Dieu. Et ça, c'est le préalable à bien souffrir, si on veut, ou à souffrir avec profit.
Il y a sûrement de multiples façons de l'apprendre.
Là. Oui, là, ça, on y reviendra. Mais déjà, j'aimerais prendre une expérience pour montrer qu'on ne vole pas dans les nuages.
D'accord. Continuons. Je vous écoute.
Prenons un couple qui est à la maison, qui décide de se faire une fête.
Oui.
Alors, il met une table, les coraux, une table à coraux, avec une nappe à coraux, il prend deux chandelles, il allume les chandelles, il fait un bon steak, des frites, tout ça, c'est tout bien réussi.
La fête.
La fête. Bon, là, ça va être la fête des cellules.
J'allais le dire, la fête des cellules.
Ben oui, c'est bon l'affaire, c'est bon, on est content, c'est donc bon, hein, bon, ben c'est parfait ça, c'est d'une grâce ça déjà, là. Ça commence là, la béatitude.
Parce que ça permet aussi une meilleure communication.
Ah, c'est que justement, on s'en va ailleurs avec ça, c'est-à-dire qu'il y a une autre idée en arrière de ça.
Ça concrétise l'amour.
Oui, c'est que en fait, on est fait pour à ce moment-là arriver à se manger soi-même l'un l'autre, c'est que... À se manger, c'est-à-dire les yeux, c'est des trous. Alors, on se regarde, on s'admire, on se prend...
C'est une petite façon de concrétiser l'amour entre deux personnes.
Oui, oui. Et là, on est au niveau de l'âme. On est au niveau de l'âme. Oui. Et la preuve que c'est plus profond et plus important dans notre cheminement, c'est que s'il arrive une chicane là-dedans, même leur pas sera plus bon.
C'est vrai.
Donc, on est à un niveau plus profond. Donc, c'est par contre, si mettons que les rôtis sont brûlés, bon, les rôtis sont brûlés, puis on n'a pas d'autres, ben, on les mange pareil, mais on peut encore semer, puis se regarder dans les yeux, puis s'admirer, et ça va continuer, mais on dit c'est pas grave.
Parce que c'est pas à cause d'une discorde que les rôtis sont brûlés.
Non, mais quand même, le corps est moins, c'est plus à fait des cellules, parce que le rôti n'est pas bien bon.
Non.
Alors, c'est de valeur. Ou encore, si on a été chez le dentiste, bon, on peut encore se regarder puis semer, mais ça mange
ça,
moins.
Ça, c'est moins drôle.
Ça mange moins bien. Mais c'est pour dire qu'on peut être même heureux si le corps a des problèmes. Mais disons que c'est pas l'idéal.
Monsieur Truchon, donc, nous en sommes à parler, si j'ai bien compris, du passage maintenant de la souffrance et de la joie au niveau de l'âme, proprement dit.
Oui, là, on est rendu là. Autrement dit, le mot « Pâques » disait « passage », mais on est en train de faire l'apprentissage de passage dans la maturation de l'homme. Donc, tout à l'heure, nous avons vu que même si physiquement nous ne sommes pas tout à fait en forme, on peut s'aimer quand même et avoir un certain plaisir profond à se rencontrer, puis à se connaître, puis à s'aimer. C'est beau. Mais est-ce possible, quand cette fois-là, c'est dans une souffrance de l'âme elle-même, est-ce que c'est encore possible d'être heureux alors que elle-même, l'âme est en souffrance?
Est-ce que vous êtes capable de nous définir ça, une souffrance de l'âme?
Oui, c'est quand une relation va mal avec quelqu'un qu'on aime. ça fait plus mal.
Alors, une souffrance émotive, psychologique.
Oui, dans une relation qui est défectueuse, où on est mal à l'aise parce que l'on ne sait plus des fois si l'autre nous aime ou encore il nous dit qu'il ne nous aime pas. Ou qu'on
essentiellement, c'est dans nos rapports avec les autres.
Absolument.
Alors,
puis avec soi-même aussi, par de redondance ou par origine, mm-hmm. parce que si tu es mal dans ta peau, tu ne seras pas bien avec un autre non plus. Mais c'est dans l'âme, cette fois-là. Alors, mettons par exemple, pour continuer notre histoire de petits repas,
oui.
que nous nous chicanons.
Oui.
Alors là, le repas physique n'est même plus bon, ce qui était dans l'assiette, c'est même plus
bon. On n'est
pas
en mesure de l'apprécier.
On peut même quitter l'endroit.
Alors, n'a plus aucune signification.
C'est pour montrer que la souffrance il nous atteint beaucoup plus profondément que le plaisir ou la douleur du corps. Mais alors, le bonheur est-il possible? Ben, c'est là. C'est qu'il faut une libération, il faut une guérison. C'est que quand on chicane, on est très malheureux, là. Là, est-ce qu'on est encore heureux? Non, on est malheureux parce que c'est l'amour, là. Alors là, à ce
parce
moment...
Parce qu'on n'aime pas ou parce qu'on ne se sent pas aimé?
Oui, exact. Alors là, on est malheureux. Et c'est la souffrance terrible. Maintenant, ça se guérit. C'est que si on se réconcilie, si on se demande comment ça va, puis si finalement on a été assez profond dans notre relation, finalement, on se pardonne, on sourit encore, puis ça continue.
Nous parlez du dialogue.
Oui, là, c'est le dialogue.
Je vais être honnête avec vous, j'avais peur que vous nous parliez de contemplation et de méditation comme vous l'avez fait
pour
d'autres problèmes.
Pas de suite. Pas tout de suite, parce que la méditation, c'est sentir l'être aimé. Il faut être réconcilié pour ça. On en viendra tantôt à un niveau encore plus profond. Au niveau du divin. Mais là, continuons, là. Alors, là, à ce moment-là, si on se réconcilie, puis finalement, un moment donné, on se dit, bon, on s'aime encore, bon, OK. Mais au moment donné, on se chicane encore, bon, on est encore malheureux, bon. Mais au moment donné, on se réconcilie. Bien, au moment donné, ce qui arrive, c'est qu'on s'aperçoit qu'on s'aime. Et qu'on s'aime tout le temps, même quand on se chicane. Alors là, on atteint un quatrième niveau, qui est le niveau de la joie. Et là, ça se brise plus, parce que c'est le fond de l'homme. Alors, à ce moment-là, là, nos chicanes, on en rira de plus
elles
en plus.
Elles n'ont pas de véritable incidence
elles
sur la relation.
Elles ne nous détruisent plus dans notre relation. Et là, on continue à être ensemble. Et finalement, on n'aura même plus de chicane. On va rire de ce qui nous divisait avant. Il n'y aura plus rien qui nous divise. Et c'est ça le fond de l'homme. Alors, la béatitude est possible si on atteint le quatrième niveau de l'homme, la joie de l'âme, qui passe à travers des souffrances. Et j'ai connu, moi, des personnes avec des souffrances physiques considérables qui continuaient à être joyeux. J'ai connu des personnes qui avaient des souffrances de l'âme importantes et qui continuaient à être heureux parce qu'ils vivaient un amour profond avec quelqu'un, amour qui ne se brisait jamais.
Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on peut vivre cette joie-là dans l'âme? Ou est-ce qu'on peut l'éprouver sans pouvoir la partager avec une autre personne qui la vit également? Est-ce qu'on ne peut pas la vivre seule?
Non, il faut avoir eu une relation thérapeutique. C'est-à-dire, soit dans le couple, soit en dehors du couple, il faut avoir une relation où dans la souffrance de l'âme, c'est-à-dire dans cette brisure de l'âme où on est malheureux parce que nos relations amoureuses sont défectueuses ou en danger ou coupées, il faut refaire cette relation avec quelqu'un qui nous accepte inconditionnellement, qui nous pardonne. Ça peut se faire dans le couple. Et à mesure que ça se fait, quand un couple se chicane assez, je dirais, pour se pardonner tout le temps, il vient à un moment donné, il n'est même plus capable de chicaner. Le couple, il n'est plus brisable. Parce que il a vécu le pire de ce qui était négatif en lui. Or, la joie est plus profonde encore. Et s'il réussit à réatteindre cette joie, elle ne le quittera plus. Alors, c'est un couple qui ne peut plus jamais se séparer. Et Françoise Dolto, qui est morte maintenant, qui était psychanalyste, dans son livre « Jésus et le désir », disait « Quand notre problème d'Édipe est guéri, on n'est même plus capable d'être infidèle. » Ben, c'est au fond ce niveau de joie qui est atteint à ce moment-là. L'unité dans l'homme est trouvée et l'homme est heureux.
J'ai une petite question qui n'est peut-être pas pertinente, vous me le direz. Quand vous parlez de cette joie qui doit être partagée sur un plan, au plan interpersonnel, qu'est-ce que vous faites des gens qui n'ont pas de personnes avec qui partager sur un plan interpersonnel profond, véritable?
C'est la mort, et ça peut être le suicide. C'est justement, il faut absolument qu'on rejoigne ces personnes et on les mette en ensemble dans leurs épreuves pour qu'ils puissent partager et retrouver la joie.
On va pouvoir revenir là-dessus plus tard parce qu'il y a énormément de gens qui sont seuls.
Oui.
Et qui ne vivent pas cette capacité de relation-là.
Oui, mais justement, la foi est là, puis ces témoins sont là. Au fond, l'agapé-thérapie et les témoins et les communautés d'église vivantes Et même la science, c'est-à-dire les savants, ceux qui s'occupent de la santé mentale, de la santé physique, mais surtout de la santé mentale. C'est pour ça que finalement, on aboutit quasiment à l'hôpital avec une affaire de même, avec une solitude semblable. Mais dans l'hôpital, il y a des médecins, mais notre meilleur médecin, ça peut être notre ami aussi.
Mm-hmm. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait donc face...
Ou le prêtre.
Ou le prêtre, oui. Qu'est-ce qu'on fait donc face au plaisir et à la douleur, à la souffrance et à la joie? Il faut réagir.
Oui, il faut s'orienter. Autrement dit, c'est plaisant, c'est bien agréable. Maintenant, il ne faut pas en faire un but. Parce qu'on va passer tout droit. Autrement dit, on va devenir esclave du plaisir et on va perdre le bonheur de l'âme. Et là, ça va être l'enfer, c'est-à-dire le monde à l'envers. Alors, c'est comme on disait, la science au service des sens, mais les sens au service de l'esprit. Il ne faut pas que l'esprit soit au service des sens. Autrement dit, de l'instinct débridé, qui finalement débridé, puis qu'on devient esclave de notre instinct. Alors, nous avons autant de maîtresses à ce moment-là que nous avons d'instinct. C'est la perdition. Alors, il faut retrouver un amour véritable et détruire nos frustrations profondes pour savoir ne pas abuser des choses si bonnes que sont la nature, la boisson et le reste.
D'accord. Est-ce qu'on serait prêt à passer à l'histoire de la révélation d'Israël dans l'Ancien Testament et de Jésus dans le Nouveau sur le mal dans le monde et les instruments de promesse?
Oui, peut-être. Là, on va regarder ça. Oui, je pense bien qu'on a étudié un petit peu le fonctionnement de la personne en elle-même, qui, au fond, dans un couple d'amis ou de conjoints, a à vivre une thérapie, à entrer en profondeur. Oui, peut-être.
Alors, si, je vous écoute.
Alors, si maintenant, nous prenons l'affaire au niveau social et mondial, nous arrivons évidemment à la grande vision de la Bible sur le mal dans le monde. Et là, c'est comme un peu l'histoire des prises de conscience qu'Israël a fait en tant que peuple élu et en tant que dépositaire de la révélation, si on peut dire ainsi, en tant que lieu privilégié d'une révélation. Nous pouvons voir les phases par lesquelles Israël a passé, tant au niveau de la connaissance de l'homme lui-même dans son fonctionnement dans le monde actuel et passé, et tant qu'autant que la connaissance de Dieu qui se révélait dans ce monde-là, dans un progrès, dans un processus de progrès de révélation par rapport à son visage. Alors, on pourrait intituler ça « Vision progressive du mal dans le monde et les promesses de Dieu par rapport à ce mal au niveau de ses témoins. »
D'accord.
Alors, d'abord, au niveau de la Genèse, qu'est-ce qu'on voit? Bon, Dieu fait toute la création, il trouve ça très bon. Autrement dit, tout est parfait, même la drogue, il est à l'hôpital, tout est bon. Ça dépend comment c'est mené. Hein? Bon, maintenant, il arrive un problème avec Adam. Adam a un problème, c'est que l'image qu'il mange de la pomme, là, autrement dit, il pogne une perversion, il arrête de suivre la vraie loi du bonheur en lui. Et là, évidemment, il met la faute sur Ève, là, parce qu'on met toujours la faute sur les autres, ça va bien. Comme ça, on évite des dépressions, puis on évite de se corriger.
On se justifie.
Oui, ça dépend de l'autre. Bon, puis Ève, elle, pas plus folle non plus, elle dit ça dépend du serpent. Bon, ça fait que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va mal, puis le couple aussi. Alors, pour continuer, finalement, là, c'est-à-dire qu'on a commencé en disant, bon, il y a un problème dans chaque personne, Chaque personne a de la misère avec lui-même. C'est pour ça qu'on est un peu moitié-moitié zinzano. Quand on se marie, là, une personne, une fois bien intelligente, avait dit à l'autre, je ne peux pas me marier, je ne me possède pas assez. Alors, c'est certain qu'on a une moitié en nous qui va, puis l'autre ne va pas. Mais quand on se marie, ça ne veut pas dire que tout est réglé. Hein?
Mais tout est question de compromis aussi.
Oui, mais puis des fois, on marie le problème qu'on a, c'est-à-dire il manquant d'autoritarisme, on va marier une femme très forte, puis finalement, quand on va se réveiller dans notre autorité qui progresse, ben, l'autre va dire, qu'est-ce que tu fais là, tu décides. C'est bien nouveau, ça. Puis là, la chicane pogne. Autrement dit, quand c'est les deux moitiés positives qui vont bien ensemble, on est en fusion, c'est le gros voyage en os. Puis à un moment donné, ces deux parties négatives, le matelas peut sortir par la fenêtre. Alors, on est moitié-moitié. On est ensemble assez pour s'aimer, puis pas capable de se lâcher. Puis par contre, pas capable d'être ensemble, on cherche rien qu'à se séparer. Alors, on est moitié-moitié. Donc, il y a un problème dans chaque personne. Donc, évidemment, il va y en avoir un dans le couple. Ça, c'est Adam et première vision du mal. Là, on ne sait pas encore d'où ça vient, tout ça.
Vous dites la première vision du mal, parce qu'on va en avoir plusieurs.
Ah, c'est pas fini.
D'accord.
Il va en avoir. Alors là, qu'est-ce que fait Israël? Bien, il croit en son Dieu qui peut le guérir, qui peut le libérer. Alors là, c'est la promesse de Genèse 3,15. Il va y avoir une vierge qui va engendrer un sauveur, OK. Autrement dit, une femme qui va engendrer un enfant qui va venir nous sauver, bon, OK. Ça, c'est l'interprétation du Nouveau Testament à partir de ce texte-là.
Mais il y a tout un écart entre Adam et Ève et puis Jésus qui
est mort. On n'est pas fini. On commence. Alors, à ce moment-là, le couple va mal. Et il s'aperçoit qu'ils sont nus. Ben, il n'y a rien là. C'est le mec-là, il ne savait même pas qu'il était nu. Voyez-vous, quand on commence à connaître le bien et le mal, ça veut dire qu'on est divisé, là. Parce que pour Dieu, le bien et le mal, c'est quoi cette affaire-là? Alors, Dieu voit rien que le bien, il n'y a pas d'affaire.
Dieu n'a pas inventé le mal.
Ben non, il voit. Alors, mais nous autres, on est divisés, on commence à voir le mal, puis à se cacher de Dieu, puis à avoir honte, puis on a des parties honteuses, puis là, ben, c'est rendu plus grave. Bon. Alors, quelle est la réponse d'Israël là-dessus? Première réponse, c'est dû à l'égoïsme, l'homme pensant qu'à lui-même, sa partie rationnelle flanche à propos de, en vertu du plaisir, puis là, la femme est un peu identifiée à ce niveau-là, puis le reste. Bon. Évidemment, ce n'est pas l'exégèse la plus poussée qui nous a été donnée là-dessus. Ça va se perfectionner avec les femmes qui vont devenir exégètes, là. Deuxième niveau...
J'espère qu'elles le sont déjà un petit peu.
Ça commence. Deuxième niveau, oui, à la faculté de théologie, les deux tiers, c'est des femmes, là. Ça fait qu'il s'en vient du beau, là.
C'est déjà parti.
C'est parti. Alors, deuxième niveau du mal, c'est Caïn et Abel. Là, c'est le mal entre frères. Ben, c'est encore pire. On sait qu'il s'agit d'avoir deux enfants pour avoir un problème. Pourquoi? Parce qu'on en privilégie un qui est plus vieux. On dit, toi, sois raisonnable. L'autre, on dit, bon, ben, t'es plus petit. Alors, fais plaisir au plus petit, tout ça. Finalement, il arrive une comparaison. L'autre s'est dit, est-ce que je suis encore aimé, moi? Alors là, il arrive un problème de jalousie.
Il va se comparer.
Il va se comparer. Il va être jaloux. Et finalement, il va haïr son petit frère. Il va lui donner des coups. Et c'est Caïn et Abel. Alors là, comment Dieu règle le problème? Ben, il dit à Caïn, je ne décourage-toi pas, je m'occupe de toi, je t'aime encore autant, et c'est une promesse encore de salut. Un autre problème encore, le déluge. Bon, là, c'est l'arche de Noé. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ben, c'est les cataclysmes de la nature. Alors, évidemment, l'homme se sentant coupable, il pense que c'est de sa faute, si l'orage le cogne, puis si ça fait dur, puis il a peur, puis il voit Dieu fâché, dans les religions, comme on pourrait dire, primitives, puis dans le christianisme, c'est Dieu qui est fâché. Fait que là, bon, ben, il dit, fâche-toi pas, Dieu, brise pas ton peuple.
Est-ce que Dieu n'était pas vraiment fâché?
Ben, voyons, on est dans un anthropomorphisme extraordinaire, c'est qu'on est au début de la révélation du Dieu chrétien, du Dieu des chrétiens, du Dieu de Jésus. Alors, c'est évident que Dieu va se repentir. Ben, je suis pas fâché, OK. Puis là, il met son arc dans le ciel. Autrement dit, l'arc avec qui il aurait pu nous tuer, là, parce qu'il était fâché, parce qu'on était méchant, là. Ben, il met dans le ciel, puis il dit, je me fâcherai plus, là. Bon. Fait que là, c'est le bel arc-en-ciel. C'est ça, la signification de l'arc-en-ciel. C'est l'arc.
L'arc-en-ciel.
Oui, l'arc dans le ciel. Il dépose son arc dans le ciel, puis il dit, ben, quand vous verrez ça, là, vous voyez bien que je suis pas fâché, là.
Donc, il a déposé les armes.
Il a déposé les armes. C'est beau, beau, beau. Mais c'est pas fini, l'histoire du mal. Alors là encore, Israël voit que faut pas être pécheur, arrêter de faire les fous. Puis là, la promesse, ben, c'est l'arche, c'est un bateau. D'ailleurs, Jésus lui-même sera dans une chaloupe dans le Nouveau Testament avec ses apôtres, puis il y aura une grosse tempête, puis les disciples sont énervés, puis ils pensent périr, puis on se croira encore avec l'arche de Noé.
Tout le monde a peur.
Tout le monde a peur, puis là, Jésus dort sur un coussin, imagine, le sauveur dort. Ça va bien, notre affaire.
Oui, mais Dieu peut se permettre d'être tranquille, lui, dans tout ça.
Ben pourquoi? Justement, il y a une leçon, c'est qu'il va se réveiller. Ils vont le réveiller, il va dire, mais c'est que vous avez, vous êtes bien énervé. Ben ils ont dit, on meurt. Ben oui, mais il dit, ramez, faites quelque chose, ayez la foi. Autrement dit, réglez le problème.
Mais prenez aussi des moyens.
Prenez les moyens, inventez-les. Alors lui, il va calmer la tempête pour montrer que c'est possible, puis il va dire, ben débrouillez-vous. Alors je prendrai un exemple là-dessus pour éclairer bien la situation, c'est que quand on fait bénir un bicycle, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus d'accident avec le bicycle si on passe les lumières rouges. Alors, il ne faut pas avoir une foi magique. C'est une foi qui nous incite à prendre nos responsabilités.
On essaie de se donner un petit peu plus confiance.
Absolument, d'avoir confiance. Parce que le but de Dieu, c'est que nous devions puissants et autonomes. Par exemple, s'il fait un orage électrique, est-ce qu'on allume une chandelle? Ben, tu peux toujours le faire si tu as peur, puis prier, c'est parfait. Seulement, l'idéal, c'est un paratonnerre. Alors, quand il y a un paratonnerre, on peut allumer la chandelle, mais pour remercier Dieu d'avoir un paratonnerre. Autrement dit, le Dieu, il veut qu'on prenne nos affaires en main. Bon.
Il veut nous rendre responsables.
Alors, la leçon dans le déluge, c'est maîtriser la création qui n'est pas parfaite, rendez-la à terme, faites-vous de la météo pour prévoir ça, tout ça, puis réglez le cas.
Je pense que vous êtes revenu souvent sur cette question-là de la maîtrise de l'univers.
Oui, absolument, surtout dans notre temps pour réconcilier foi et science. D'ailleurs, Einstein disait « La religion sans la science est dangereuse. » Parce que, justement, on peut avoir une foi mythique, c'est-à-dire imaginaire.
Irréaliste.
Puis la science sans la foi, évidemment, c'est un monde tronqué. Il nous manque l'essentiel, il nous manque Dieu, il nous manque le bonheur éternel. Alors, il faut se prendre en main. Mais quand même, j'illustrerai ça par deux homélistes qui montent en chair, si vous voulez, parce qu'avant, on montait en chair pour prêcher. Alors, mettons qu'il y a un volcan qui éclate. L'un va dire, ben voyez-vous, là, vous êtes toujours déshabillé sur les plages, mais c'est pour ça, là, vous êtes pêcheur, alors voilà pourquoi le volcan est en train d'éruption. Convertissez-vous, menez-vous comme du monde, couchez-vous de bonheur. L'autre curé peut bien monter en chair puis dire, bon, écoutez, il y a eu un volcan qui a éclaté, alors occupons-nous des blessés.
Oui.
Ça serait deux curés, un qui a une vision de l'Ancien Testament, où il faut se corriger nos défauts parce que Dieu nous punit. L'autre, parce qu'on est enfant encore, l'autre dans le Nouveau Testament, où on est des adultes, Dieu nous punit pas. Nos souffrances sont peuvent être la conséquence de nos fautes, OK, de nos erreurs. Dieu dit, ben corrige-les. C'est pour ça qu'on verra ça tantôt, qu'est-ce qu'on fait devant la souffrance. Ben, il faut l'étudier intelligemment.